Merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Voici l'Esprit public, l'actualité de la semaine revue et corrigée par nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, la romancière Marie Desplechin, Thierry Pech du think tank Terra Nova et Sylvie Kaufmann du journal Le Monde. Vous avez remarqué, il y a des semaines où le temps est incertain, des semaines où les pièces du puzzle semblent ne pas être encore tout à fait en place. Une semaine en Europe où l'on sent que les grandes manœuvres n'ont pas encore totalement commencé, où Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, pressent que le vent souffle à nouveau dans les voiles européennes. Une semaine où Angela Merkel retient pour encore quelques jours sa satisfaction d'être réélue pour un quatrième mandat. Attendre encore un peu avant de reprendre le leadership d'une Europe que semble vouloir lui disputer un jeune président français. Une semaine où à Londres, le vote de la première loi sur le Brexit offre un répit à Theresa May avant la grande rupture. Une semaine où l'Europe, comme la communauté internationale, reçoit perplexe l'annonce d'un nouveau tir de la Corée du Nord au-dessus du Japon. Une semaine en France où, là encore, tout semble un peu comme en suspens, au point de rendre les commentateurs prudents. Martinez a gagné, mais Macron n'a pas perdu, écrivait par exemple mercredi Laurent Geoffrin dans Libération, dans un sophisme éloquent sur l'incertitude des temps, après la première mobilisation mardi contre la réforme du Code du travail. Ni massive, ni ridicule cette mobilisation, non, juste un entre-deux. Juste de quoi permettre au Figaro de se réjouir que la CGT piétine et que le gouvernement ait le champ libre pour avancer. Juste de quoi permettre à l'exécutif de réaffirmer que rien ne saurait le faire reculer. Une semaine pour se jauger, en somme, en attendant la suite, les routiers, la CGT de nouveau, puis la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Une semaine où le mouvement social rêve d'une cristallisation. Se jauger et se préparer, se réparer encore dans les partis politiques parce que les débats, les dégâts de l'ouragan Macron sont encore là. À droite, où l'on se divise entre ligne Wauquiez, ligne Pécresse et ligne des constructifs, pour ne pas faire mentir le bon vieux maître René Raymond et son trio inusable des droites à la française. Se réparer au PS également, où le grand cadavre à la renverse tâtonne encore en se relevant, surtout quand Jean-Luc Mélenchon, toujours dans la retenue, compare la rue de Solferino à un zoo où les animaux se gardent entre eux. Quand on vous dit qu'il y a des semaines où le temps est incertain, où l'on se jauge avant les grandes manœuvres.
Nous ne sommes pas en train de faire des baroudes d'honneur, là. Nous sommes en train d'organiser une défense implacable du Code du travail. Mais les puissants ont toujours résisté. Ça ne s'est jamais vu qu'ils aient lâché quoi que ce soit autrement que par le rapport de force et la lutte.
C'est pas du tout un bras de fer. Moi, je n'envisage pas cette étape de la transformation de la France comme un bras de fer. Moi, ce que j'essaie, c'est de faire en sorte que le mandat qui nous a été donné par le peuple français, par les électeurs, soit mis en acte.
Que toutes les organisations politiques et syndicales opposées sur une chose simple à la loi travail se rencontrent au plus vite, de façon large et unitaire, pour discuter de la suite. Et moi, je le dis en toute franchise et en toute responsabilité, on ne peut pas jouer solo dans cette mobilisation.
Hubert Védrine, bienvenue sur ce plateau, puisque c'est la première fois que vous nous rejoignez dans cette nouvelle formule de l'Esprit public. On va commencer avec vous et attaquer par l'actualité française, une fois n'est pas coutume avec vous, avant de parler de l'actualité européenne. Ce climat social hexagonal de ces derniers jours, est-ce qu'il vous en rappelle un autre? Ou est-ce qu'il vous semble totalement inédit?
Non, je trouve que c'est assez nouveau, en fait. Ça fait une bonne vingtaine d'années que la France est le seul pays très développé qui n'arrive pas à adapter, disons, le coût de l'indispensable système de protection sociale et nécessité, disons, économique simple, et qu'on ne peut pas dépenser sans fin plus que ce qu'on a, parce que n'importe quelle famille sait, en fait. Tous les pays très développés l'ont fait pour sauver le welfare, les protections sociales, même en dehors de l'euro, donc ce n'est pas lié à l'euro, contrairement à la présentation partisane qui en est faite parfois. La Nouvelle-Zélande a fait ça, l'Australie l'a fait, le Canada l'a fait, la Norvège l'a fait, tout le monde l'a fait, plus ou moins. En Allemagne, Mme Merkel est très forte, entre autres grâce à Schröder, en fait. Alors, aucun pays fait exactement comme le pays voisin, mais depuis très longtemps, ceux qui ont vaguement tenté en France de le faire ont reculé. Même quand c'était annoncé, même quand c'était ratifié par le Parlement, ils ont reculé devant la rue, pour dire les choses simplement. Donc là, c'est différent. Des réformes, à mon avis, indispensables, vitales, ont été annoncées. Donc ratifiées par l'élection, soutenues par une majorité, par le gouvernement. Donc il y a une sorte de cinéma à la française qui se produit quand même de toute façon, mais...
Le cinéma,
moi,
il est
je
où,
pense
dans
que
la
ça
rue
va se... Oui, plus dans la rue que dans le reste, parce que le reste est annoncé. Hein, ça se déroule, c'est les institutions démocratiques qui fonctionnent normalement. Voilà, donc je pense que ça va passer et que ça va créer un état d'esprit nouveau. À l'extérieur, c'est déjà le cas, parce qu'il y a une grosse attente, notamment en Europe. Il faut voir le détail, mais enfin bon. Et en France, même ceux qui sont contre aujourd'hui, qui jouent des rôles, quoi, en fait, vous voyez, se diront à un moment donné, bon, puisque le pays a recommencé à bouger, il faut que je m'adapte moi aussi, y compris dans ma dénonciation. Donc je crois assez qu'il y a quelque chose qui se produit et que je ne comparerai pas à ce qui s'est passé dans la vingtaine d'années écoulées, même s'il y a eu des réussites ponctuelles. Voilà mon sentiment aujourd'hui.
Thierry Pech, vous aussi, vous avez eu le sentiment de vivre une semaine assez inédite, en suspens. Il commence à se passer quelque chose dans la rue sans qu'on sache réellement analyser ce qui est en train de se jouer là.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fond de tableau général qui est à peu près ce qu'a dit Hubert Védrine à l'instant, c'est-à-dire que chacune des grandes démocraties dans les pays développés a été contrainte ces 20 dernières années à trouver une solution pour faire vivre son contrat social dans des économies ouvertes. La social-démocratie ne s'était pas pensée pour une économie ouverte, elle s'était pensée à l'échelle nationale, à l'échelle de ce que Karl Polanyi avait appelé la grande transformation, mais ça se passait à l'échelle nationale. Le monde s'est ouvert, les économies se sont ouvertes, les gens circulent, les idées circulent, les marchandises, etc. Et du coup, il faut adapter nos modèles pour faire vivre le contrat social avec les citoyens dans ce contexte-là. Et ça, c'est le grand défi de toutes les démocraties, et c'est le grand défi que souvent les sociodémocrates n'ont pas su relever dans la plupart des pays d'Europe, et c'est ce qui explique la difficulté dans laquelle se trouve la social-démocratie en Europe aujourd'hui. Après, il y a quelque chose de profondément inédit, je crois, dans le contexte politique français. La rue n'en est qu'un élément, d'une certaine façon. C'est que les grandes coordonnées du paysage politique français ont explosé littéralement en 9 mois l'an passé. Bon, ce qui permettait de localiser, comme sur un GPS, la gauche et la droite, cet ensemble de données a été désorganisé. Et ça a quantité de conséquences, en particulier dans les partis politiques qui n'arrivent plus à se situer. Alors, ils n'arrivent plus à se situer, c'est normal, après une défaite, il y a toujours un moment, on est groggy, la gauche avait vécu ça en 2007, la droite en 2012, mais là, il y a quelque chose de plus dur sur le plan stratégique et idéologique, c'est qu'au fond, la gauche et la droite se séparaient sur quoi ? Elles se séparaient sur un rapport à l'avenir. La gauche, c'est le camp du mouvement, la droite, le camp de l'ordre. Et elle se séparait aussi sur la représentation de la société. La gauche était censée représenter le monde des salariés, pour faire court. La droite représentait le monde des non-salariés, qui ont été très nombreux dans le passé. Les indépendants, les agriculteurs, les commerçants, etc. Eh bien, sur ces deux grands, axes, Les formations politiques ne se retrouvent plus aujourd'hui. Elles sont divisées, bien sûr, sur des questions habituelles du clivage gauche-droite, les riches, des pauvres, mais aussi sur d'autres questions, l'ouverture, la fermeture, le rapport à l'Europe et à la nation. Bon. Et donc là, pour le coup, le macronisme est un peu la victoire qui est née de l'effondrement de la politique française telle qu'on l'avait vécue, et les autres formations n'arrivent pas, et c'est pas un fait conjoncturel, il va falloir qu'elle... Nietzsche dit quelque part dans le Gai Savoir, il faut laisser reposer sa douleur. Et je pense qu'il va falloir qu'elles laissent reposer leur douleur pour se retrouver sur un plan doctrinal, idéologique plus complet.
Cette grande confusion, Sylvie Kaufmann, que nous décrit très bien Thierry Pech, et notamment à l'égard des appareils partisans, cette grande confusion, on la retrouve aussi, et on l'a retrouvée cette semaine au niveau syndical. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette division syndicale qui paraît chaque jour plus patente aujourd'hui en France ?
Oui, ben c'est une conséquence de ce grand chambardement que vient de décrire Thierry. C'est vrai qu'on nous parle de cette rentrée sociale comme un rituel auquel il faut absolument sacrifier. Et Hubert Védrine parlait tout à l'heure de cinéma. Oui. On est dans un scénario qu'il faut absolument, depuis la fin de l'été, on parle déjà de ces manifestations qui vont avoir lieu, de cette rentrée sociale tendue, agitée, etc. On oublie un peu vite, en effet, ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé cette année sur le plan électoral et cette pulvérisation cette explosion du paysage politique classique tel qu'on l'avait connu. Donc, sur le front syndical, il ne pouvait pas rester hermétique à tous ces changements. On a eu une progression, d'ailleurs. On a eu une évolution dans le paysage syndical français. On a la CFDT qui est passée au premier rang dans les entreprises privées, devant la CGT. Et puis, on a eu cet été de concertation. On a eu d'abord un président et un parlement élus Sur une couleur tout à fait clairement annoncée, qui était celle de la réforme du Code du travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort tout d'un coup au coin du bois. Il y a eu donc une concertation tout l'été au ministère du Travail, sous la direction de la ministre, Muriel Pénicaud, menée de manière tout à fait habile avec des syndicats. Ça donnait des allures de négociation, ça n'en était pas une, c'était pas une négociation syndicale, c'était une concertation, mais probablement les Français, voyant les syndicats se rendre tous les jours au ministère du Travail, en ont conclu qu'il y avait eu une grande négociation. De manière très habile, à nouveau, les syndicats ont été convoqués séparément. Donc ça, c'était une stratégie pour éviter un front syndical uni. Il y a eu une autre stratégie qui était d'arrondir les angles quand c'était nécessaire sur les réformes proposées, c'est-à-dire de gommer les angles, de gommer les aspérités pour qu'il n'y ait pas une faille ou un rocher, si je puis dire, sur lequel la contestation syndicale puisse s'accrocher. De fait, on a bien vu dans la manifestation du 12 septembre, il n'y avait pas de slogan qui dominait, il n'y a pas eu de thème vraiment sur lequel on pouvait concentrer la contestation. Et puis, il faut rappeler quand même que la CGT était quasiment seule avec quelques autres syndicats, mais elle a été lâchée par FO.
Même si une partie des troupes de FO voilà, était la même minoritaire.
Voilà, ça a posé quelques contestations au sein de FO, mais voilà, Jean-Claude Mailly n'y était pas. Et Laurent Berger de la CFDT a parlé de démonstration de faiblesse, puisqu'on parle toujours aussi dans ce rituel auquel il faut sacrifier, on parle toujours de démonstration de force syndicale. Je ne pense pas que ça soit vraiment une démonstration de faiblesse, mais ça n'est pas en tout cas ce qu'on a vu dans d'autres situations, et ça n'est certainement pas quelque chose qui va faire reculer le gouvernement, puisqu'on savait de toute façon que ça n'allait pas se produire.
Oui, Laurent Berger de la CFDT que vous citiez à l'instant, Sylvie, hein, qui considère que la bataille, elle va se jouer, selon lui, en faisant évoluer les décrets. Il a eu l'occasion de dire cette semaine, c'est moins spectaculaire que les manifestations, mais c'est plus efficace. Marie Desplechin, on vous accueille avec plaisir dans cette nouvelle formule de l'esprit public, avec une voix et un regard sur l'actualité évidemment différent. Vous êtes romancière, vous êtes une intellectuelle engagée, puisque je vais le rappeler, vous avez participé à la campagne des législatives à Paris, aux côtés de Julien Bayou. Vous êtes donc, sans peu plus, une intellectuelle de gauche, cette femme de gauche que vous êtes. Est-ce qu'elle est descendue dans la rue cette semaine, ou est-ce qu'elle a eu envie de le faire?
Elle l'aurait fait si elle n'avait pas été en classe à ce moment-là, et on pouvait dire, on n'a pas fait grève, voilà, l'institutrice et moi, on a choisi de ne pas décevoir les enfants. En revanche, ce qui m'a frappé, c'est que dans mon entourage, les jeunes y sont allés. Et c'était vraiment très intéressant de les voir, parce qu'une partie d'eux ne travaille pas, certains travaillent mais ne sont pas syndiqués. Et donc des gens dont je ne m'attendais pas à ce qu'ils rejoignent une manifestation donc traditionnelle, sur le mode d'un syndicat, étaient dans la rue et sont rentrés avec les dépliants d'attaque en disant « Mais regarde, là c'est bien expliqué, c'est pas un slogan, on comprend pourquoi. » Et c'est une partie d'entre eux, mais pas tous, étaient passés à nuit debout. Une partie d'entre eux, et il y a vraiment une espèce, comme une forme de frémissement. Et j'imagine qu'il y a 10 ans, j'aurais pas forcément vu ça. C'était vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. On parle de recomposition, mais cette recomposition, à mon avis, si elle se fait, elle se fera pas sur les modèles qu'on a connus jusqu'à maintenant, puisqu'effectivement tout a explosé. À mon avis, mais j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à voir la droite gagner. C'est à partir du moment où j'ai eu 15 ans, au milieu des années 70, s'en est suivi 50 ans où le point de vue a changé. C'est-à-dire que avant, on pouvait compter l'individu, le groupe qu'on faisait ensemble, le projet demain. Mais progressivement, d'une manière assez violente, quand je suis rentrée dans le monde du travail, dans les gens qui m'entouraient, dans les gens que j'avais vus entre 18 ans et 25 ans, une seule chose comptait, c'était l'entreprise, et il fallait que ça marche. Et donc, on était rentrés dans... Et là, effectivement, on arrive au bout du processus. Dans un sens, c'est un côté inquiétant, et dans un sens, c'est un côté assez excitant. Et moi, j'ai envie de voir, dans cette mobilisation multiforme, de voir intuitivement l'idée que c'est la recomposition, elle se passera là.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Hubert Védrine, est-ce que vous pensez, ce qu'avait l'air de dire Marie Desplechin, que peut-être il se passe quelque chose, qu'on pourrait assister à une cristallisation, une convergence des luttes? C'est le rêve d'Olivier Besancenot qu'on entendait tout à l'heure au début de cette émission. Ou est-ce que, comme vous avez commencé à nous le dire au début, vous pensez qu'on est totalement à l'opposé de cela aujourd'hui?
Oui, je crois qu'on est à l'opposé, mais L'élément commun, c'est que depuis très longtemps, les manifestations, chaque fois qu'il y a une vague tentative de réforme d'epsilon dans le système de protection du travail qui conduit au chômage de masse, puisque c'est un système qui protège les gens qui ont un emploi contre ceux qui ne l'ont pas encore en réalité. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations, il y a beaucoup de gens qui y allaient, qui étaient par ambiance, par romantisme, par espérance, qui n'étaient pas du tout concernés par les réformes en fait, et qui dans le meilleur des cas auraient été non touchés, voire même dont le sort aurait été amélioré. Parce que là, ceux qui ne sont pas dans le jeu, qui ne sont pas représentés par les organisations, qui ne défilent pas, c'est les gens qui, demain et après-demain, retrouveront des emplois. Si on arrive à... Si le gouvernement, le président, que j'approuve tout à fait sur ce point, réussissent à gagner un peu comme au Danemark, la combinaison de flexibilité sans laquelle l'économie dépérit, ce qui est le cas depuis longtemps, et la sécurité. Donc souvent, les gens qui se mobilisent ne sont pas concernés par le sujet. Et ceux qui seraient concernés ne sont pas là. Mais ça veut dire que pour le président du gouvernement, à mon avis, il est très urgent dans la foulée, une fois passée l'affaire du Code du travail où ils vont réussir, c'est de donner un vrai contenu à la question formation, parce qu'on commence par la flexibilité et à la question sécurité. Il y a longtemps que je pense qu'il fallait d'ailleurs plutôt inverser la formule danoise, sécurisation, flexibilité, mais enfin, à l'arrivée, ça sera la même chose. Donc la réforme annoncée de la formation professionnelle, aujourd'hui, il y a quoi, 30 milliards, quelque chose comme ça.
40, je crois.
40 milliards. Qui, en gros, ne marchent pas, quoi. Ils sont en grande partie gaspillés par combinaison des attitudes patronales et syndicales. Ça, c'est très important. Et ça fait partie du même mouvement, et moi, je souhaite beaucoup que ça aille vite sur ce point.
En effet, des réformes en rafale, puisque juste derrière la réforme du Code du travail, on aura la réforme de l'assurance chômage, l'extension de l'indemnisation aux indépendants, etc., et puis la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce que vous considérez, vous pensez en effet que Thierry, c'est que cette rafale de
moi,
réformes...
Je parle de formation tout au long de la vie, hein.
Oui, oui, bien
pas
sûr,
que formation initiale.
La formation en général, est-ce que vous pensez qu'il va en effet y avoir un mouvement d'adhésion derrière cette rafale de réformes, ou qu'on ne pourra pas éviter cette cristallisation sociale et ce mouvement social dont parlait Marie Desplechin à l'instant, et notamment auprès de la jeunesse?
Bon, je ne suis pas Madame Soleil, ça, je ne peux pas vous dire si ça va cristalliser ou pas, mais ce que je peux dire, c'est que la cohérence du projet qu'a proposé Emmanuel Macron en français, et cette cohérence ne sera pas facile à tenir, mais elle est capitale, c'est précisément d'associer, de jouer comme au piano un accord à plusieurs touches, si vous voulez. Il y a une touche qui est effectivement... Code du travail, bon, c'est ce qui est engagé aujourd'hui, mais qui est absolument pas séparable des deux autres touches, ou trois même, que sont l'assurance chômage universelle, sécuriser les individus plutôt que les emplois, parce qu'à la fin, c'est quand même les individus qui comptent, bon, la formation professionnelle tout au long de la vie, et puis la formation initiale aussi, c'est-à-dire tout le clavier du capital humain, si vous voulez. Donc, si on ne fait pas ça ensemble, alors, la réforme du Code du travail, ça ne sert à rien. Ces quatre touches doivent être actionnées simultanément. Et c'est d'ailleurs à ce prix que les Français peuvent reconnaître un caractère progressiste au projet porté par le président de la République. C'est extrêmement important ce qu'on dit là. Je ne sais pas si les gens y adhéreront à la fin. Ils auront de multiples raisons de se plaindre, peut-être, j'en sais rien. Mais la cohérence du projet, c'est ça et c'est très important. Et je vous dis, ça ne sera pas facile à tenir. Un mot sur le Code du travail. Alors, je me sens un peu comptable de cette réforme puisque j'anime un think tank qui a produit un des trois rapports qui ont inspiré d'abord la loi El Khomri, puis qui était cité régulièrement par Emmanuel Macron comme bon le rapport 7 Barthélémy. Ce qui est réalisé dans l'actuelle réforme est assez en deçà de ce qui était proposé dans ces différents rapports. Il faut quand même en avoir conscience. Les syndicats ont obtenu dans la concertation, qui était de ce point de vue-là d'ailleurs une négociation. Ils ont obtenu quantité de choses pour renforcer le rôle de la branche, des sécurités collectives. Ils sortent pas bredouilles de tout ça. C'est aussi pour ça qu'ils sont, pour une partie d'entre eux, pas ardents à mobiliser dans la rue. Ils ont vraiment obtenu des contreparties.
Notamment, il faut.
Notamment, il faut.
Ce qui explique la division syndicale aujourd'hui.
Par contre, ils n'ont pas obtenu quelque chose, et là je pense à la CFDT, qui est capitale pour l'équilibre général de la réforme qui est proposée, et qui était d'ailleurs proposée dans certains des rapports que j'ai cités, c'est-à-dire des contreparties en termes d'animation de la démocratie sociale dans les entreprises. Ce qui a été mal compris, je pense, dans le gouvernement, c'est une critique que je peux leur adresser de ce point de vue-là, c'est que cette réforme n'est pas une réforme pour le marché du travail. C'est aussi une réforme pour la démocratie dans l'entreprise. Auroux disait au début des années 80, cette formule qui a été ressortie récemment, mais qui était très belle, il disait « il faut faire ces réformes pour que la démocratie ne soit plus le silence des hommes, le lieu du bruit des machines et du silence des hommes ». Bon, moi j'ai gardé cette formule en tête parce que je crois qu'elle marque bien ce que l'entreprise doit devenir, le lieu d'une communauté humaine qui dialogue. Et de ce point de vue-là, on aurait pu aller plus loin.
Alors, comme tout président de la République qui se lance dans une vague de réformes de ce genre, le cauchemar absolu, l'anti-référence absolue, c'est bien sûr 1995, c'est le cauchemar d'Alain Juppé. Alors ici, à l'Esprit Public, on a eu envie de réentendre brièvement la rue de 1995 et la réponse d'Alain Juppé.
Pour la gagner, on se battra pour la garder, et la sécu, aux travailleurs. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu, aux travailleurs.
Je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler, qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. Dans les grandes villes, vous devez parfois faire des heures de marche. Et avec le froid qui revient, c'est de plus en plus dur. Puis je pense aussi aux grévistes. Je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève. Et pour les plus modestes, cela implique des sacrifices. Alors il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir. Il faut en sortir d'urgence.
Voilà, c'était Alain Juppé, le 5 décembre 1995, souvenez-vous, s'adressant aux Français en direct de Matignon. Marie Desplechin, si on met à part tout ce qui a à voir avec les convictions personnelles, avec l'idéologie, est-ce qu'on a vraiment envie, quand on s'appelle Marie Desplechin, de revivre le scénario de 1995? Est-ce qu'on espère une mobilisation active dans la rue, ou est-ce qu'on se dit qu'il est quand même venu aujourd'hui le temps de la réforme?
Quelle drôle de question. Oui, il peut. La réforme peut advenir. Enfin, vous parliez tout à l'heure de la formation, de la flexi-sécurité. Donc là, on est sur flexi, et puis on n'est pas du tout sur la formation. Là, c'est pas fait. Et il n'y a aucun gage que ce sera fait. C'est-à-dire toute l'idée, toute la, comment dire, le socle du discours, de la pensée qui est adressée par le président actuellement, c'est qu'il faut que l'entreprise marche. Et c'est pas le message qui est reçu, c'est celui-là. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à être aussi chouette qu'en Angleterre, par exemple.
L'entreprise ou le travail, c'est quelqu'un de la droite libérale était
oui,
sur
mais
ce plateau.
Oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, il faut que ce soit comme dans les pays qui ont réussi cette réforme, qui ont une réforme qui a été payée à un prix extrêmement fort par des gens qui étaient les gens dont on peut dire qu'ils sont dépassés ou moqués et qui sont ceux qu'on voit dans la rue ou qu'on voyait dans les lois Khomri, qui sont ce qu'on appelait les travailleurs, en fait. Et donc que cette réforme se fasse d'un côté, de toute façon apparemment elle est inévitable puisque l'un des arguments sont dit c'est inévitable. Donc elle se fera, on verra bien. Après fondamentalement, je pense que ça ne changera pas, c'est-à-dire que je pense que la tendance, c'est une tendance qui ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut pas s'améliorer tant qu'on sera sur cette idée que le cercle vertueux qui fait marcher l'histoire, c'est l'idée que c'est la cupidité et l'accumulation, c'est-à-dire que c'est faire du capital et c'est comme ça qu'on doit penser, c'est que le capital marche et qu'il soit ouvert partout et que ça fonctionne bien. Et qu'on partira de cette idée-là. Après, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, elles iront toujours un petit peu dans le même sens. Elles iront dans le sens que ce qui fait marcher la machine, c'est ça. Et que cette machine, elle est, voilà. Et moi, je pense que, oui, on peut la réformer. Et c'est bien, et tant mieux pour les gens qui en tireront quelque chose, d'autres n'en tireront rien. Mais que ça bloquera de toute façon. C'est à court terme.
Hubert Védrine, comment le socialiste qui sommeille en vous écoute sa voisine de gauche. Écoute sa voisine de gauche.
Historiquement, je suis plutôt un mitterrandiste. Enfin bon, j'aggrave mon cas. Peut-être.
Non, je ne suis pas.
Alors, la différence avec 95 est fondamentale. En 95, Jacques Chirac était élu au nom de la lutte contre la fracture sociale. On trouve ça sympathique, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il est élu pour ça. Et à l'automne, il dit, l'état des finances publiques oblige à faire le plan Juppé. Bon, évidemment, il y a une sorte de tête à queue que les gens jugent intolérable. Alain Juppé pense encore aujourd'hui que si Jacques Chirac n'avait pas lâché trop vite, l'essentiel des réformes passait. Enfin bon. Deuxièmement, l'opinion publique à l'époque, y compris la gauche et les partis de gauche et syndicats, n'étaient pas conscients du fait que le système français, très justifié dans son désir de protection, avait tellement été au-delà dans la protection systématique qu'il a, il était générateur du chômage de masse. Chômage de masse durable, de longue durée, à 10%. Mais c'est une honte absolue, ça. C'est une honte absolue. Donc malheureusement, beaucoup de gens, sincèrement, qui ont lutté depuis 20 ans contre les changements, ont lutté pour le maintien du chômage de masse, de longue durée, des gens non qualifiés. Donc je trouve ça courageux de s'attaquer à ça. Sur le plan très pratique, vous entrez dans chez votre boulanger, charcutier, boucher, demain, est-ce que vous êtes prêt à engager des gens en plus ? Voyez la réponse. Ils vont dire « je voulais pas avant parce que c'était trop compliqué, flexibilité ça va m'aider », ou alors ils vont dire « je cherche des gens depuis 6 mois, je n'en trouve pas », parce qu'on est arrivé à un stade qui est un scandale absolu par rapport aux idos de 45. C'est que pour beaucoup de gens, malheureusement, un job peu qualifié, c'est plus avantageux de rester dans cette situation que de retravailler. C'est lamentable, enfin on a les gens les plus idéalistes doivent être épouvantés par cette espèce de dénaturation, destruction du désir de travailler normalement pour s'insérer. Alors évidemment, ce n'est pas des jobs extraordinaires avec des salaires formidables, mais c'est un meilleur mode de réinsertion dans la vie sociale normale que d'être simplement assisté. Heureusement qu'ils sont assistés, mais vous voyez ce que je veux dire, la différence psychologique. Donc moi, je pense que l'opinion, y compris à gauche, y compris dans les syndicats qui font la balance selon les moments, CFDT est faux, je pense qu'ils ont intégré une partie de ces données et qu'ils ne doivent pas se mobiliser que pour ceux dont ils défendent les intérêts aujourd'hui parce qu'ils ont un emploi aujourd'hui, mais aussi en pensant à ceux qui l'ont demain ou après-demain. Donc pour moi, la période actuelle est très différente et positive.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
Alors, puisque dans cette première partie d'émission, on s'interroge sur le réveil, point d'interrogation, des oppositions, après avoir analysé ces divisions syndicales, Thierry Pêche, avec vous, j'aimerais qu'on parle de ce réveil ou pas des oppositions partisanes. On a de nouveau beaucoup entendu Jean-Luc Mélenchon, on a vu passer Benoît Hamon dans un cortège. Parlons d'abord de la gauche, justement. Est-ce que vous avez eu le sentiment de voir se réveiller la famille socialiste, par exemple, cette semaine ?
Ah non, je n'ai pas eu ce sentiment. Pour le coup, la réponse est claire. Non, je pense que la gauche, comme la droite. Moi, j'avais théorisé cette idée avant l'effondrement de Fillon, que la crise de la droite était moins apparente, mais tout aussi réelle et tout aussi profonde. Je crois que ça éclate en plein jour aujourd'hui. Donc, d'un côté comme de l'autre, la gauche ne se réveille pas. Il y a une vraie différence, par contre. Si vous voulez, on a un paysage qui a accordé... les seuls qui arrivent à s'opposer clairement au gouvernement sont les radicalités, parce qu'elles sont allées chercher très loin les motifs de s'y opposer. Donc Mélenchon, la France insoumise d'un côté, et le Front National qui, comme un vieux loup blessé, lèche ses plaies là depuis quelques semaines, mais qui reste quand même sur des positions clairement d'opposition à la ligne gouvernementale. Et toutes les autres formations sont dans une espèce de confusion, ne sachant pas si elles doivent se radicaliser elles aussi pour s'opposer, ce serait la pente Wauquiez d'un côté, ou la gauche qui oublie régulièrement sa culture de gouvernement lorsqu'elle est dans l'opposition, ou si elles doivent vivre selon la nuance, comme disait Roland Barthes, mais au risque de ne plus avoir d'existence objective. Donc cette problématique, ils l'ont pas résolue, c'est bien ça qu'il faut adresser, comme on dit en anglais, en bon français aujourd'hui.
Alors, on a parlé de la gauche, parlons de la droite. Comment est-ce que vous avez écouté, entendu cette annonce qui fait aussi partie des annonces de la semaine venue de l'Élysée, annonçant que la PMA sera bientôt ouverte à toutes les femmes à l'horizon 2018? Est-ce que vous y voyez une énième démonstration de la capacité tacticienne d'Emmanuel Macron, justement peut-être à venir réveiller le clivage droite-gauche sur les questions sociétales?
Écoutez, c'est... je pense que les Français ont cru qu'Emmanuel Macron, au début de la campagne, était peu libéral culturel. Hein, vous savez, il y a trois grands libéralismes, le libéralisme politique, économique et le libéralisme culturel sur les grandes questions de société. En fait, il a montré par la suite qu'il était assez ambigu sur ces questions, qu'il pouvait être assez conservateur, à l'ombre de Jeanne d'Arc à Orléans pendant la campagne, au Puy du Fou, qu'il avait une idée de la nation tout de même. Il a montré sur l'école... également, le retour du grec et du latin, bon, tout ça ne sent pas le libéralisme culturel en diable. Bon. Et en même temps, sur un certain nombre d'autres sujets, par exemple la contraventionnalisation, il faut prendre de l'élan pour le dire, du cannabis, ça penche plutôt côté libéral culturel, et bien sûr la généralisation de l'ouverture de la PMA. Je crois qu'on voit l'équilibre idéologique du macronisme dans ces balances entre les sujets. Je ne crois pas que ce soit tactique, par contre. Ça, je
de l'avoir
pas.
Annoncé cette semaine.
Non, mais de toute façon, le gouvernement fait feu de tout bois. Il allume beaucoup de feux de réforme en ce moment. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sujets de fiscalité qui vont venir avec le projet de loi de finances, beaucoup de sujets de prélèvements obligatoires qui vont venir avec le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là aussi, il faut prendre son élan. Et il y a encore beaucoup d'autres sujets qui sont... Il y a une réforme de la politique du logement qui arrive. Il rappelle de ce point de vue-là les premiers mois des gouvernements, du gouvernement Sarkozy qui occupait le terrain avec quantité de sujets de réforme.
Vous savez ce que dit Nicolas Sarkozy d'Emmanuel Macron?
Non, je ne crois pas.
Il dit c'est moins en mieux.
Je savais que cette analogie me vaudrait cette petite trappe. Mais non, je ne crois pas que ce soit ça.
On peut comparer à l'union de la gauche au début, en termes de rythme.
Je pense qu'il faut faire beaucoup parce qu'on a encore beaucoup de capital politique en début de mandat aussi.
Oui.
Avant de refermer ce chapitre hexagonal pour parler cette fois des affaires européennes, un dernier mot avec vous, Sylvie Kaufmann, justement, pour parler de la posture d'Emmanuel Macron cette semaine, qui n'était pas dans l'hexagone, puisqu'il est allé au chevet des victimes du cyclone Irma. Là encore, comment vous l'avez interprété, cette absence? Qu'est-ce qu'elle envoie comme signification?
Oui, alors, juste pour revenir sur cette... Est-ce que c'est une stratégie ou pas d'allumer tous ces feux à la fois? Moi, ça rappelle en effet ce que faisait Sarkozy en début de mandat, mais c'est aussi une façon. C'est un président pressé, on le sait, Emmanuel Macron, mais c'est aussi une façon de disperser les oppositions, parce que évidemment, quand on ouvre plein de fronts, les oppositions aussi, elles sont obligées de se disperser sur ces fronts-là. Donc, la PMA, d'une part, c'était quelque chose dont il avait été question dans la campagne. Et puis, si vous regardez les études d'opinion, le soutien de Macron s'érode surtout à gauche, en réalité. Il garde son socle à lui relativement solide, même s'il est un petit peu en baisse, le socle de ses électeurs. Mais c'est surtout les électeurs de gauche qui le quittent. Donc c'est peut-être une façon aussi d'essayer de les rappeler. Alors sa visite à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, là je oui, on peut dire bien sûr que c'était que ça tombait très bien le jour de la manifestation du 12 septembre. Je crois que, si vous voulez, quand il était à Athènes le 7, on lui faisait déjà le reproche de ne pas y être. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti tout de suite? Bon, je crois que logistiquement, c'était compliqué de le faire. Voilà, il n'y a jamais... Je crois que de toute façon, il s'exposait là à des critiques. Et puis finalement, c'était pas non plus... c'était pas joué d'avance, ce voyage à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, parce que les critiques auxquelles le gouvernement a été exposé pouvaient tout à fait se révéler assez désastreuses pour lui. Donc...
Alors un puzzle où toutes les pièces ne sont pas encore tout à fait en place, c'est aussi le sentiment que nous a laissé la semaine européenne avec Theresa May. On l'a rappelé qu'il gagne un peu de répit avec le vote de justesse de la première loi sur le Brexit. Angela Merkel qui doit encore attendre 7 jours pour empiler pour un 4e mandat. Et un Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui a bien écouté le discours d'Emmanuel Macron à Athènes et qui en profite pour rallumer la lumière de la Maison Europe.
Nous sommes en train de réparer le toit de l'Europe. Mais aujourd'hui et demain, nous devons patiemment, étage par étage, moment après moment, inspiration après inspiration, continuer à ajouter de nouveaux étages à la maison Europe. Il faut parachever la maison Europe maintenant qu'il fait beau et tant qu'il fait beau. Parce que quand les nuages se formeront à l'horizon, et ils vont se former un jour. Il aura été trop tard. Alors, larguons les amarres. Leinen los, comme disent les Allemands. Mettons les voiles et profitons des vents favorables.
Cette métaphore marine filée par Jean-Claude Juncker, elle vous inspire quel commentaire, Hubert Védrine?
Moi, j'aime bien Juncker parce
Marie Desplechin y a été très sensible, manifestement. On y vient dans un instant.
J'aime bien Juncker, pas à cause de cette rhétorique qu'on peut appliquer à n'importe quoi, mais... Parce que quand il est devenu président de la Commission, il a eu le courage de dire que la réglementation à outrance, ce sont ces termes, hein, très intrusive, ce sont ces termes, avait rendu non pas anti-européen idéologique comme l'extrême gauche et l'extrême droite, mais simplement allergique à l'Europe, des tas de gens de centre-gauche, centre-droit, qui étaient naturellement pro-européens. Il a eu le courage de s'attaquer à ça, d'arrêter des tas de directives complètement inutiles, allant bien au-delà de la compétence des traités, ce que même les chanceliers allemands dénoncent, parce que ça porte atteinte aux compétences des Länder. Donc il s'est attaqué à quelque chose qui est fondamental, à mon avis, dans le décrochage des peuples progressifs par rapport à l'idée européenne. Je pense qu'il n'y a pas de relance si on ne traite pas cette question. Je suis enchanté de voir que maintenant Emmanuel Macron, qui a fait une campagne pro-européenne, disons classique, courageuse parce qu'il était seul, mais classique, développe maintenant le thème de l'Europe qui protège, et lui-même aussi parle de subsidiarité. Il récupère enfin le thème de la souveraineté européenne, ce qui était lamentable de l'avoir abandonné, cette notion. Donc j'aime beaucoup ce Juncker-là. Maintenant, je trouve courageux. C'est d'ailleurs à cause de cette initiative que les personnels de la commission Firax avaient commencé à répandre des rumeurs contre lui. Tout simplement parce qu'il s'attaquait à leur fonds de commerce, quoi, etc. Maintenant, quand il dit ça, bon, très bien, c'est charmant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors la chute, elle dépend presque essentiellement, non pas des peuples, puisque les peuples n'ont jamais défilé en demandant plus d'Europe, ça n'existe pas ça, mais quelles sont les décisions clés des décideurs à un moment donné. Et là, ça dépend donc non pas de Mme Merkel qui va être réélue, mais de sa coalition. Comment va être composée sa coalition? Et quelle va être la nature de la discussion avec la France en octobre ou novembre par rapport à ça? Qu'est-ce que les Allemands vont demander par rapport aux demandes européennes classiques, genre ministère des Finances, ministre des Finances de la zone euro, budget de la zone euro? Bon, on pourrait débattre de l'intérêt que ça présente en vrai pour nous, mais c'est les demandes françaises depuis longtemps. Madame Merkel va dire oui, peut-être, à condition que... Oui, là, il y a, là, pour le coup, ce n'est pas une concertation, c'est une négociation. Et si les choses fonctionnent, petit à petit, se rétablit, non pas le couple mythique d'autrefois, parce qu'on n'est plus dans une phase sentimentale et lyrique, mais une entente franco-allemande qui peut être moteur de quelque chose. Je ne sais pas encore de quoi, ça doit se discuter. Et ça peut avoir un effet sur le système européen, qui est assez disparate aujourd'hui. Il y a beaucoup de clivages entre les uns et les autres. Mais cette configuration, je ne vois pas quand elle s'est présentée, sauf à remonter à l'époque mythique, maintenant, Kohl-Mitterrand-Delors, vous voyez. Donc, oui. C'est très très intéressant ce qui va se passer maintenant. Et ce n'est pas joué d'avance, hein.
On va analyser ça dans un instant avec Thierry Pech, avec Sylvie Kaufmann, mais... Je vois tiquer beaucoup Marie Desplechin à vos côtés. Non, je me demandais si cette femme de gauche que vous êtes, cette intellectuelle engagée que vous êtes, trouve qu'on peut encore être sentimental et lyrique quand on parle d'Europe, pour reprendre les termes d'Hubert Védrine.
Ah, on peut, mais c'est pas ça le moteur, ça l'a jamais été. Ça n'empêche pas de l'être, jamais.
Oui.
À aucun moment.
Oui, enfin, c'est pas le sujet. Si on peut être sentimental et lyrique, bien sûr, hein. L'Europe, c'est un sentiment. C'est une culture commune, c'est des émotions communes, c'est des langues qui se traversent, c'est tout ce qu'on partage. Et quand on parle de ce que pensent les gens de l'Europe, il y a ça qui devrait être vivant et qui d'ailleurs l'est. Il fallait voir les jeunes qui pleuraient au moment du Brexit, c'est des couples franco-anglais ou alors les... Enfin bon, et ben voilà, c'était sentimental, c'est cet impact qui est extrêmement fort. Donc oui, je pense qu'elle peut l'être. Après, j'étais touchée par ce que vous disiez sur la réglementation, parce que je pensais à un documentaire que j'avais écouté de votre maison sur les suicides d'agriculteurs et le suicide d'un jeune homme. Et la Confédération paysanne attribuait énormément de suicides d'agriculteurs en partie aussi à la réglementation extrêmement tatillonne. Et à ce qu'elle faisait peser. Alors je pense que vous devez penser qu'il faut réformer certainement ce monde et assez vite, mais ce que ça causait aussi comme souffrance humaine et comme empêchement, et que c'est d'un côté ce côté sentimental extrêmement désirable de l'Europe et de tout ce qu'on peut construire comme désir, et ça, le désir aussi est un moteur, et l'autre côté, ce qui ne marche pas et qu'on ne comprend pas, qui est complètement, qui nous est opaque et pour finir toxique.
Hubert Védrine.
Oui, moi je respecte beaucoup ce que vous avez dit sur le sentiment. Par rapport à ça, je dis simplement qu'historiquement, c'est pas le moteur. C'est pas pour ces raisons-là que, après la guerre, grâce aux États-Unis et à l'URSS qui ont établi la paix, les grands Européens ont mis en marche quelque chose d'original. C'est pour des raisons historiques, stratégiques, très pensées, très rationnelles. Les foules s'en fichaient, enfin, ne demandaient rien. Il est arrivé qu'à certains moments, les foules soient enthousiasmées par certaines décisions et certains résultats. Mais elles n'ont jamais été déclencheurs, en fait, par rapport à ça. Mais, en même temps, je respecte beaucoup la réalité qui est celle de la civilisation européenne, en fait, qui dure depuis longtemps. Quant aux normes, j'avais pas ça à l'esprit, parce que la plupart des agriculteurs aujourd'hui ne le seraient même pas s'il n'y avait pas la politique agricole commune, ils auraient disparu en cours de route. Donc ils sont là grâce à la PAC. Mais à l'intérieur de la PAC, c'est vrai qu'il y a la furie de la surréglementation et que l'agriculteur moyen est pris à la gorge. Donc il faut corriger aussi ça. J'en parlais comme un facteur allergisant par rapport à des gens qui, normalement, sont contents que l'Europe avance. Quoi.
Mais
j'en parlais en citant Juncker.
Le Mitterrandien que vous êtes et que vous revendiquez d'être,
oui,
doit se souvenir que le mitterrandisme a consisté, dans les années 80, à substituer à l'extinction d'une espérance idéologique socialiste une espérance européenne qui était le produit de substitution du progressisme. Et oui, ça, je vous assure, pour avoir été jeune dans ces années-là, que c'est passé dans nos veines. Et j'entends très bien ce que dit Marie de ce point de vue-là. Mmh. Il y avait du désir d'Europe et c'était beau. C'était beau. Alors, on peut en rigoler, on peut ricaner là-dessus. Non, mais vous avez raison. Historiquement, ça n'a jamais été un moteur. Mais ça a permis de gagner Maastricht d'un poil. Et ça a permis de laisser l'espérance mitterrandienne sur ses rails.
On a oublié les 49% de gens qui avaient voté non. D'autre part, Mitterrand n'aurait jamais imaginé que la France, à terme, allait se fondre dans une espèce d'ensemble européen distinct. Il n'a jamais été fédéraliste idéologique, jamais. Helmut Kohl, jamais non plus. Aucun chancelier allemand. Donc, et quant à la surréglementation, Mitterrand lui-même était déjà sensible à cette surréglementation qui venait pas de Delors, d'ailleurs, à l'époque. Vous voyez ?
Beaucoup des problèmes que vous déplorez aujourd'hui viennent du traité de Maastricht.
Enfin bon. Non, elle vient de l'idée du grand marché et de l'interprétation par la Commission, à partir donc des années 90, de l'idée du grand marché, du mode d'unification, par un certain type de directive détaillée, plutôt par objectif. Non, c'était pas inéluctable, et de toute façon, il faut le rattraper, le corriger. Je voulais dire que Juncker avait raison, quoi, en gros.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
Alors, est-ce que Jean-Claude Juncker a raison? On ne sait pas. En tout cas, il formule des propositions assez précises dans ce grand discours qu'on a pu entendre cette semaine. Il rappelle bien sûr que la croissance est en train de revenir en Europe. Il rappelle qu'il est favorable à la création d'un ministre de la zone euro. On le sait, les pays de l'Est sont contre cette Europe à plusieurs vitesses. Il demande à ce ministre des Finances de la zone euro, qui est également souhaité par Angela Merkel et par Emmanuel Macron. Est-ce qu'en effet, on peut considérer qu'il est en train réellement de se passer quelque chose en Europe, Thierry Pech, avec ce trio-là?
Alors, Juncker a raison, le beau temps est là. Juncker a raison, le beau temps ne sera pas toujours là. Et Juncker n'a pas complètement raison quand il dit qu'il faut en profiter pour construire un étage supplémentaire. Non, il faut en profiter pour réparer les étages qui ont été endommagés. L'Europe est endommagée par 10 années de crise.
Il le dit aussi, il parle d'une crise existentielle dont nous sortons.
C'est ça le sujet. Parce que, en gros, on a peut-être 2-3 années de croissance sur la zone euro, sur l'Europe, qui seront assez bien installés. Alors, on ne connaît pas l'intensité de cette croissance et beaucoup dépendra de ça. Mais l'Europe est profondément endommagée et il n'est pas sûr qu'elle puisse survivre à un deuxième choc de l'amplitude de ce qu'on a connu avec la crise de la zone euro. Donc, c'est ça l'inquiétude que les politiques qui regardent l'horizon un peu au-delà de leur réélection doivent avoir en tête. Donc, il y a des choses structurelles à faire pour réparer. La maison européenne, elle est cassée sur deux axes. Elle est cassée sur un axe nord-sud. C'est d'ailleurs ce qui explique l'isolement diplomatique allemand aujourd'hui en Europe. On les présente comme les leaders, mais en fait, ils sont, à mon avis, assez isolés. Vous avez au sud des pays qui ont payé très très cher les années folles de l'euro, c'est-à-dire les années entre 2000 et 2008. Hein, et entre 2000 et 2008. Bon. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, même l'Italie. Hein, bon. Puis vous avez une deuxième cassure sur un axe est-ouest, avec des pays est-européens, la Pologne étant le truc le plus visible, qui aujourd'hui ne veulent pas d'une Europe plus intégrée au niveau de la zone euro en particulier, bon, et d'une Europe plus solidaire comme ça, qui ne veulent pas en tout cas d'une Europe libérale politique. Il y a aussi ces sujets avec la Pologne.
Thierry, à la troisième cassure, élite peuple.
Bon, mais celle-là, elle est partout. Donc,
ça en fait trois.
Oui, mais elle n'est pas géographique. Elle est vraiment, elle est politique. Donc ça, il faut réparer. Et pour ça, il faut modifier la structure de la zone euro, pas simplement en créant un ministre de l'économie de la zone euro. Ça, c'est le marchepied, mais c'est vraiment le premier stade. Le deuxième stade, c'est le budget européen. Et le troisième stade, c'est le Parlement de la zone euro. Qu'est-ce qui tient lieu de politique économique aujourd'hui, de politique macroéconomique aujourd'hui au niveau de la zone euro, c'est la Banque Centrale Européenne, dont les Français, vous vous en souvenez, Hubert Védrine, vous avez participé à ces débats, considéraient qu'il fallait surtout pas qu'elle soit indépendante. Les Allemands considéraient qu'il fallait surtout qu'elle soit indépendante. Finalement, les Français sont ravis qu'elle soit indépendante parce qu'elle a permis de s'opposer à la politique ordolibérale allemande.
Au moment où il fallait faire condition pour une monnaie unique,
une politique expansionniste. C'était la condition.
C'était la seule façon de sortir de la seule zone marque.
Je finis juste là-dessus. Il y a au sein de la BCE aujourd'hui des gens qui sont mal à l'aise avec le pouvoir qui leur échoit et dont ils ne sont comptables devant personne. Il faut quand même qu'à un moment donné, ils soient comptables de ce pouvoir, au moins devant le Parlement européen, devant un Parlement de la zone euro éventuellement. Mais ça ne peut pas rester aussi sous-politisé, cette affaire. Donc il y a des choses importantes à faire pour que l'Europe soit en situation d'affronter une prochaine crise qui viendra malheureusement après le beau temps.
Vous parlez de sous-politisation de l'Europe ces dernières années, ce qui va sans doute avec l'expression de Jean-Claude Juncker lorsqu'il parle aussi de crise existentielle. Est-ce que, Sylvie Kaufmann, on va assister au retour de la politique en Europe ces prochaines années avec ce trio-là, avec Jean-Claude Juncker, avec Emmanuel Macron, avec Angela Merkel, vraisemblablement réélue dans une semaine?
C'est ce qu'ils espèrent. Je crois qu'on est dans un moment très important en effet, pour l'Europe. Et on a eu ces deux discours très importants, celui d'Emmanuel Macron à Athènes le 7 septembre, je crois, et celui de Jean-Claude Juncker cette semaine, qui ont la même ambition, d'une certaine manière, pour l'Europe, qui veulent relancer l'Europe, qui ont compris qu'on est à un stade maintenant où on a dépassé cette crise existentielle. Mais rappelez-vous, elle était quand même gravissime. On parlait de l'éclatement de la zone euro, de la disparition de l'euro, de l'Europe qui pouvait même disparaître en tant qu'institution. Et on est maintenant à un moment où on dit il faut tout relancer à partir de la politique précisément et de la démocratisation. Il y a un constat assez védrinien, si je puis dire. Hubert Védrine est trop modeste pour parler de son livre, mais dans son livre « Sauver l'Europe », il y a ce constat qui est que les citoyens ont été dépossédés de cette Europe pour laquelle ils ont été appelés ils ont été consultés. Il y a ce constat qui est que après le référendum de 2005, qui ont marqué un coup d'arrêt, ou en tout cas en France, aux Pays-Bas, on est quand même allé de l'avant sur les institutions avec le traité de Lisbonne, etc. Donc maintenant, alors en revanche, là où ils ne suivent pas Hubert Védrine, c'est que Hubert Védrine souhaitait une pause, si j'ai bien compris, si je me souviens bien de ce que vous avez écrit.
Une pause, c'était pour marquer les esprits, pour l'arrêt de la machine à réglementer sans arrêt, sans fin, alors, incontrôlable.
Voilà. Alors là, d'une certaine manière, Juncker a marqué cette pause, puisqu'il souligne dans son discours que lui, il a lancé que 25 initiatives par an, alors que ses prédécesseurs en faisaient plus d'une centaine par an. Donc on a compris aussi, il y a aussi cette prise de conscience qu'il faut arrêter cette réglementation excessive. Voilà. Après, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce que le couple franco-allemand va relancer cette Europe, en s'appuyant sur la Commission? Là, on arrive dans les chevaux des possibles. Il y a des différences importantes. Et d'ailleurs, on voit que Juncker lui-même, par exemple, sur cette question du Parlement européen, il marque déjà sa différence avec Emmanuel Macron. Bon, le fait est qu'il s'exprimait devant le Parlement européen à Strasbourg, donc il ne pouvait pas non plus leur dire de but en blanc finalement, on va créer un autre Parlement que vous, donc il faut tenir compte de ça aussi. Et je crois que tout ça va faire partie d'une grande discussion, mais il a par exemple appuyé la proposition d'Emmanuel Macron d'organiser des conventions démocratiques l'année prochaine dans toute l'Europe. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. C'est assez intéressant. Il ne faut pas que ça soit un exercice dans le vide, par exemple. Les Allemands se sont assez peu prononcés là-dessus. Ils n'ont pas l'air d'être très au courant. Quand j'en parle avec des collègues allemands, ils n'ont pas l'air d'être tout à fait convaincus de l'utilité de ces choses-là. Chaque État membre devra le faire. On va voir. Ce qui serait terrible, c'est que ça serait d'organiser ces conventions démocratiques pour donner à nouveau une voix aux citoyens et de ne pas tenir compte à nouveau de ce qu'ils disent.
L'Europe des citoyens et l'Europe des leaders. Alors, nous connaissons en effet les thèses védriniennes et je crois savoir, Hubert Védrine, que vous considérez que la question du leadership européen est assez secondaire et pourtant il y a déjà des commentateurs, des analystes qui imaginent une rivalité dans le leadership de cette nouvelle europhilie entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. C'est un faux sujet?
Ça ne serait pas de l'europhilie, c'est de l'euro sur enchère, peut-être. Bon, d'abord, sur le point d'avant, mais en une seconde, je comprends la logique, j'écoute, j'entends la logique, disons, économique et technocratique et financière d'une intégration renforcée de la zone euro. Ça va donner lieu à des discussions extraordinairement compliquées. Je ne crois pas du tout que les Allemands accepteront telles quelles les demandes classiques de Bercy, fait du ministère des Finances français, répétées depuis des années sur le ministère des Finances de la zone euro, le budget, etc. Je ne sais pas d'ailleurs en quoi c'est forcément et automatiquement bon pour nous, mais il y a une sorte de consensus dans les dirigeants actuels sur ce point. On verra, je ne suis pas contre, je dis simplement que ça ne traite pas la question du décrochage des peuples. Ça ne répond pas à ça. Ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas idiot, mais entre les anti-européens, les simples sceptiques, les déçus, parce qu'on leur a promis des tas de trucs, bon, les découragés, les allergiques. Donc il faut traiter ces gens-là. Et je répète que je pense qu'Emmanuel Macron a raison de traiter la question subsidiarité, de traiter la question Europe de l'Est, ils s'y sont dissociés entre les uns et les autres sur la question, par exemple, de la directive sur les travailleurs détachés. Donc je suis assez en phase avec tout ça, mais j'attends de voir quand même comment ça va tourner. Sur le leadership, ce n'est pas une question personnalisée, en fait. L'Allemagne est au centre du jeu. Madame Merkel est très forte grâce à Gorbatchev, la réunification. C'est Gorbatchev, hein, ce n'est pas les Allemands. Ils ont bien réagi, mais ils ne pouvaient pas déclencher. Et grâce à Schröder, en fait. Elle a très bien géré la situation. Habilement, elle répond très bien aux désirs d'ordre, de calme, pas de perturbation. Et puis elle a un talent tactique extraordinaire pour étouffer l'ensemble des rivaux, concurrents, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Elle est très forte sur ce plan. Mais elle n'a jamais rien dit de spécial sur la suite. Elle n'a pas une idée générale. Elle n'a pas de vision au sens français.
Elle a moins la vision que.
Et vous rappelez qu'Helmut Schmidt, le chancelier allemand, disait. Quand un politicien me parle de vision, je lui conseille d'aller chez le médecin. Bon. Donc les Allemands ne sont pas demandeurs de ce genre de choses. Donc je ne crois pas que c'est une question personnelle. Si Emmanuel Macron réussit à faire passer les réformes, à mon avis, utiles, qui redonnent à la France confiance en elle, et qui montrent dans le monde entier que ce pays a recommencé à bouger, dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Là, il se crée quelque chose petit à petit, qui permet à la France de retrouver une compétitivité normale et une crédibilité politique. À ce moment-là, dans des débats plus compliqués, du genre est-ce que l'Allemagne est d'accord pour développer un peu plus une politique étrangère, mais en phase ? Par exemple, la France et l'Allemagne pourraient avoir une politique commune intelligente sur la question de l'Iran face à Trump qui détruit. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Ou bien en Afrique ou ailleurs. À ce moment-là, oui, peut-être. Ils ne se recréent donc pas un couple parce qu'on a dépassé cette phase, mais un moteur, un leadership commun. Mais vous voyez, je vois les choses de façon, disons, beaucoup moins personnalisée que ça ne l'est dans votre question.
Et néanmoins, j'ai envie de vous entendre pour conclure cette émission de Thierry Pache et Sylvie Kaufmann sur ce futur nouveau couple franco-allemand. Thierry, on va commencer par vous.
D'abord, il y a une échéance importante à la fin du mois, puisqu'il y a des élections en Allemagne. On saura à quoi ressemblera le Bundestag allemand et donc la coalition qui en sortira. Et vous savez, ils font un peu comme à Rome quand on choisit un pape. Hein. Une fois qu'ils ont les résultats, ils s'enferment pour écrire une plateforme de gouvernement et la fumée blanche sort au bout d'une semaine, 15 jours, parfois un peu plus. Et après, ils ont une plateforme de gouvernement. C'est la démocratie qui fonctionne, la démocratie parlementaire qui fonctionne, l'Allemagne, de ce point de vue-là. Donc, on en saura plus. Au moment des vacances de la Toussaint, on saura à peu près à quoi s'en tenir. Et donc, on saura si on a en Allemagne un pouvoir disposé à l'entente avec les propositions que peut porter Emmanuel Macron, ou si au contraire, on a un pouvoir en Allemagne calé sur les positions de Schäuble, qui est sans doute un des seuls qui ait vraiment parlé du couple franco-allemand ces dernières années, mais c'est aussi un de ceux qui l'ont le plus entravé par ses exigences de consolidation budgétaire extrêmement rapide. Bon. Donc, on saura à quelle sauce va être mangée l'entente franco-allemande dans quelques semaines. Mon point de vue là-dessus, c'est que l'Allemagne est beaucoup moins forte qu'elle en a l'air. Moi, je pense que l'Allemagne est assez isolée, qu'elle a besoin de la France, pour une raison simple, c'est qu'elle ne peut plus prendre appui sur le Royaume-Uni. Le jeu diplomatique allemand consistait, quand les Français les emmerdaient, à s'appuyer sur les Britanniques. Et quand les Britanniques les emmerdaient, à s'appuyer sur les Français. Bon, c'est plus possible. Et donc, il y a une espèce de... Ce couple qui avait une espèce de maîtresse commune, d'une certaine façon, pardonnez-moi l'expression, est condamné à s'entendre en tête à tête, sur beaucoup de sujets. L'Allemagne est assez isolée, et je pense qu'il faut que ces deux voix s'entendent sur des sujets importants, et que l'Allemagne accepte de revenir dans l'histoire, et que la France fasse un travail sur elle-même, et tout ça, et tout ça. Mais c'est pas gagné.
Vous croyez pas une rivalité Macron-Merkel ? Pour vous, c'est un non-sujet.
Non, mais ça, ce serait ce serait vraiment triste.
Moi, je ne crois pas qu'il faille poser cette question en termes de rivalité. D'abord, sur l'isolement de l'Allemagne...
Vous n'êtes pas d'accord.
Non, je ne pense pas que l'Allemagne soit isolée. Il y a toujours l'Europe du Nord. Elle a aussi une relation particulière avec l'Europe centrale qui pose problème aujourd'hui, cette Europe centrale, mais qui est quand même...
Pardon
qui...
Sylvie, vous avez vu que les Polonais ont rouvert le dossier des réparations
Absolument,
de la guerre.
Absolument, je l'ai bien vu. C'est pour ça que je dis que ça pose problème. Mais il reste que l'Allemagne est ce... Et ce point, nous sommes, la France est plus ancrée vers le sud et l'Allemagne est plus ancrée vers le nord et l'est. Donc c'est quelque chose, je ne crois pas que dans l'absolu, on puisse dire que l'Allemagne est isolée dans l'Europe. Ensuite, quand je dis, il ne faut pas poser la question en termes de rivalité, nous avons deux pays européens, très européens, deux piliers de l'Europe qui sont deux systèmes différents. Nous sommes un pays très centralisé. L'Allemagne est un pays fédéral avec des Länder très puissants. Nous sommes un régime présidentiel. C'est un régime parlementaire où le chancelier ou la chancelière passe son temps à aller s'expliquer, se justifier devant le Bundestag, qui a aussi un tribunal constitutionnel très puissant. Nous avons deux systèmes assez différents. Je ne parle même pas de la culture du compromis, du dialogue social. Nous avons deux histoires très différentes qui nous façonne. Et donc, oui, il y a ce côté visionnaire aujourd'hui du président français et puis ce côté beaucoup plus terre-à-terre et pragmatique d'une chancelière qui est reconduite, qui va certainement être reconduite pour un quatrième mandat. Voilà, donc tout ça doit marcher ensemble. En même temps, on est obligé d'avancer ensemble. Et ça, il y a une vraie conscience commune de ce moteur franco-allemand qu'il doit être un moteur, justement, pour le reste de l'Europe. Donc, je crois que c'est une donnée qui est très importante et qui va permettre d'avancer maintenant.
Merci
malgré
beaucoup.
Les divergences.
Merci infiniment à tous les quatre, Sylvie Kaufmann, Thierry Pech, Hubert Védrine et Marie Desplechin, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci à Céline Leclerc qui a préparé comme toujours avec moi cette émission. Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. Dans un instant, on retrouve évidemment Alain Crugère, on ne parle pas la bouche pleine, où vous allez découvrir que Saint-Augustin affectionnait les pommes-poires et les amphores de vin que sa mère berbère, Sainte-Monique, aimait à déguster. À la semaine prochaine, dimanche 11h, et nous serons notamment avec Wajdi Mouawad et Daniel Cohen. À très vite.